La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous reprenons l'émission de La Panacée dédiée à la santé naturelle et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et l'espace. Du yoga classique décrit par Patanjali il y a plusieurs milliers d'années, jusqu'au Kundalini, une voie puissante pour éveiller l'énergie intérieure. Au fil de l'émission, nous allons découvrir des extraits des Yoga Sutras de Patanjali et humblement tenter de comprendre leur sens et voir comment ces principes peuvent s'incarner dans nos vies grâce aux techniques de Kundalini Yoga. Je propose ce regard à travers le Kundalini Yoga car c'est la pratique que je connais la mieux. Pour ce voyage, je serai accompagnée d'Antoine.
Bonjour Malika Cécile, et j'en profite pour informer tous nos auditeurs que l'émission donc La Panacée pour cette nouvelle année est donc décalée d'une semaine, donc ça sera maintenant les
deuxième lundi du mois.
Le deuxième lundi du mois à 15h30 et la rediff c'est le jeudi à 9h30, voilà, il y a eu des petits remaniements.
Merci pour cette précision.
Alors, nous allons lancer une virgule, c'est la première de l'année, on se remet doucement dans la routine. Malika Cécile, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous préciser qui est déjà ce Patanjali ?
Alors, Patanjali, il est connu pour être le père du yoga moderne. Ça veut dire qu'il n'a pas inventé le yoga. Le yoga existait déjà sous diverses formes, mais il les a regroupés dans un système. L'histoire raconte en fait que le premier yogi aurait transmis le yoga aux Septarishis, les sept sages, il y a plusieurs milliers d'années. C'est une personne qui avait une compréhension fine de la nature humaine, mais qui n'a rien mis par écrit. Et comme il estimait trop difficile de conserver tout ce qu'il savait en une seule personne pour la transmission, il a choisi donc sept sages à qui il a transmis différents aspects du yoga. C'est ce qui a donné par la suite les sept formes de base du yoga. Même aujourd'hui, bien que celles-ci se soient ramifiées, le yoga a toujours conservé ces sept formes distinctes. Patanjali est venu beaucoup plus tard et a en quelque sorte regroupé et inclus tous ces aspects dans les Yoga Sutras. C'est donc devenu un ouvrage de référence.
Alors, ce Patanjali commence justement ses Yoga Sutras par une définition simple mais profonde. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ?
Oui, parce qu'en fait, souvent ce qu'on connaît du yoga en Occident, ce sont les postures de santé. Et ça ne correspond qu'à un des huit piliers du yoga. Le terme yoga vient du sanskrit et signifie « joindre, unir ». Par extension, cela signifie l'union du corps, de l'esprit et de l'âme pour une connexion avec le divin. Vous voyez qu'on sort vraiment d'une simple pratique sportive. Au-delà des postures qu'on appelle asana, le yoga permet d'apaiser la discorde intérieure et les tourbillons du mental afin d'atteindre un état de clarté et de paix. Imaginez un lac agité, vous ne pouvez pas en voir le fond. Mais si l'eau devient calme, le fond apparaît clairement.
Et alors justement, comment est-ce qu'on calme ce lac mental dans le Kundalini Yoga ?
Eh bien, on utilise déjà le souffle comme allié pour plonger à l'intérieur de soi-même. On va également chanter des mantras ou méditer en silence. Et évidemment, la pratique des postures dans des enchaînements dynamiques va permettre de renforcer. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience vous-même. D'ailleurs, une simple respiration longue et profonde sur quelques minutes a déjà un effet puissant sur le mental. La cohérence cardiaque, qui est très populaire aujourd'hui, en est un exemple.
Alors, Malika Cécile, tu as parlé des huit piliers du yoga qui sont proposés donc par Patanjali. Est-ce que tu peux nous donner une version simple de ces piliers du yoga pour tous ceux qui ne les connaîtraient pas ?
Alors, je vais essayer de ne pas en oublier parce que c'est toujours un peu la même chose avec les sept noms. On ne sait jamais, on en oublie toujours un quand on essaye de les énumérer. Alors, c'est parti pour les piliers du yoga. On a le premier, donc les asanas, les postures qui sont très connues. On a ensuite les pranayamas qui correspondent à une respiration consciente et rythmée. Par exemple, inspirer en 6 temps, retenir son souffle en 3 temps et expirer en citant. Il y a ce qu'on appelle les yamas, qui sont les préceptes moraux universels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça peut être ne pas nuire en pensée, parole et acte. Les niyamas sont les principes posés dans le rapport à soi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, cultiver le contentement, étudier, faire une pratique régulière des postures, respiration, méditation. Donc ça amène finalement le mode de vie. Hein. Le pratyahara correspond à la maîtrise et à l'harmonie des sens. Dharana, c'est le recueillement et la concentration. Dhyana, c'est la méditation. Et enfin, le samadhi, c'est l'état final d'unité. Donc voilà les 8 piliers. En Kundalini Yoga, on considère donc que pour mener une vie heureuse, il est nécessaire de nourrir les 3 éléments de l'être humain que sont le corps, l'esprit et l'âme. Autrement dit, on va faire les postures pour avoir un corps en bonne santé, on va étudier pour avoir de la connaissance et nourrir l'esprit, et enfin on va pratiquer le yoga pour atteindre une paix intérieure et nourrir notre âme.
Alors Manika Cécile, Patanjali il dit aussi que l'apaisement se cultive par la pratique assidue et le détachement. Comment est-ce que tu interprètes cela?
Alors, en Kundalini Yoga, par exemple, on retrouve ça dans la discipline quotidienne qu'on appelle la sadhana. Pratiquer, même si le mental dit « mais j'ai pas envie », et en même temps ne pas juger sa performance. Dans un kriya, donc c'est la série d'exercices, il arrive que les muscles se mettent à trembler, que l'esprit dit « non mais là c'est bon, j'arrête ». Et c'est là que va entrer en jeu ces 2 qualités. Continuer avec constance et lâcher prise sur l'idée de réussir ou d'échouer.
Donc même si mon chien aboie, que mon téléphone sonne ou que ma posture ne ressemble à rien, ça compte quand même.
Bah oui. En fait, ce qui va compter finalement, c'est le chemin et l'intention que l'on met dans sa pratique, pas la perfection ni la performance. On sème et on cultive de bonnes graines.
Patanjali dit aussi que la posture doit être stable et confortable.
Alors oui, dans le yoga classique, c'est la base pour méditer. Une posture stable et confortable. Par contre, confort, ça ne veut pas dire mollesse. Et stabilité, ça ne veut pas dire rigidité. L'idée, c'est de maintenir une structure physique sans contraction inutile et maintenir un bon niveau de concentration sur ce que l'on est en train de faire et ce que l'on ressent. Imaginez quand même que parfois en Kundalini, certaines méditations nous demandent de garder une posture pendant 11 minutes.
Ah oui, 11 minutes quand même, c'est long. Ça peut être un supplice.
Ouais, des fois mes élèves me disent ça. Mais c'est là où en fait ça devient un entraînement pour l'esprit. C'est-à-dire qu'on repousse ses propres limites. On muscle son mental et finalement, avec un mental plus fort, ça peut servir dans la vie de tous les jours. Le défi physique permet d'expérimenter cette union entre la fermeté et la détente.
Patanjali, il dit aussi « Alors le voyant demeure dans sa nature véritable ». C'est quoi l'interprétation de cette phrase ?
Alors, quand on a un mental qui est apaisé, on va se reconnecter à ce qu'on est vraiment. Parfois même, on va le découvrir. Quand ce mental est apaisé, on cesse de se confondre avec nos propres pensées. Satnam, c'est un mantra, un bij mantra, un mantra semence qui est souvent utilisé. Ça fait vibrer notre identité, notre essence profonde. On retrouve cette sensation d'être avant toute étiquette. Je suis une mère, je suis animateur radio, je suis ceci, ceci. Avant toute étiquette, on retrouve la sensation de ce que l'on est. Et ça, c'est le cadeau. On parle aussi de l'éveil de l'énergie intérieure, cette fameuse Kundalini. Elle est décrite comme une énergie latente en bas de la colonne vertébrale. Et lorsqu'elle s'éveille par différentes pratiques, comme la respiration du feu, les fermetures, le chant des mantras, elle va monter le long des centres énergétiques et elle va amener une forme de clarté proche de l'état d'esprit décrit par Patanjali.
Et là, ça y est, on est arrivé dans la partie mystique du yoga.
Oui, mais en fait, c'est aussi très concret. Par exemple, la respiration du feu, qui est une inspiration et une expiration très rapide par le nez avec un ventre actif, ça va stimuler cette énergie, on va hyperventiler quelque part. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup du yoga, mais c'est quelque chose dont il faut faire l'expérience dans son corps, vraiment dans la pratique. Si je résume pour être un peu plus pragmatique, on a Patanjali qui nous a donné une carte, calmer l'esprit, pratiquer avec constance, détachement. Il y a le yoga qui nous offre une boîte à outils avec le souffle, les postures, les mantras, les méditations, tout ça pour concrétiser ces principes. Et cet ensemble va donner un chemin complet vers plus de conscience et de liberté intérieure. Ce chemin, c'est avant tout une expérience personnelle, c'est pas une théorie. Donc l'objectif, c'est d'exprimer une meilleure version de soi-même et de satisfaire tous les aspects profonds de son être. Je pense qu'une petite pause s'impose. Donc on va pouvoir écouter Sat Narayan, interprété par Ajit Kaur, pour poursuivre ensuite l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Auditrices et auditeurs qui nous rejoignent pour la suite de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien.
Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les fondements du yoga, notamment à travers des extraits du Yoga Sutra de Patanjali. Malika Cécile, à toi personnellement, qu'est-ce que le yoga t'a apporté et quels intérêts, donc un occidental, on va dire, peut-il en attendre ?
Alors, de mon expérience personnelle, je dirais que je connais ma vie avant la pratique du yoga et je connais ma vie avec le yoga. Et clairement, moi, je fais le choix de ma vie avec le yoga. Ça m'a permis, en fait, de sortir de la douleur physique, déjà dans un premier temps, parce que j'avais des problèmes de santé. Et du coup, je vivais avec cette douleur. Et la pratique du yoga, mais ça me demandait une pratique quotidienne, pas simplement un cours par semaine, même si j'ai commencé comme ça. Et en commençant à pratiquer tous les jours, en fait, un jour, j'ai plus eu mal. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. C'est quand j'ai arrêté de faire du yoga que j'ai de nouveau eu mal. Et là, je me suis dit « Ah, mais en fait, j'avais plus mal. C'est donc possible. » Donc déjà, ça m'a permis de sortir de cette souffrance physique. Et le truc, c'est qu'une fois que la douleur elle s'est dissipée, bah, j'ai pu me rencontrer, développer d'autres capacités, des capacités mentales. Et moi, après, j'ai fait le choix de que ce soit mon chemin de vie, mais un mode de vie, en fait. C'est pas juste une série de postures compliquées, c'est vraiment, comme on l'a vu avec les piliers du yoga en première partie, c'est il y a cet aspect-là d'exercice de santé, mais il y a aussi essayer de penser juste, d'agir de façon juste et alignée. En fait, tout ça, c'est quelque chose qui vient nourrir l'être. Et voilà. Et même quelques minutes par jour, moi je le dis souvent, ça peut déjà commencer à amener le changement.
Alors, si on prend des exemples concrets, comment cette pratique du yoga peut, par exemple, soutenir une personne qui est stressée par son quotidien ?
En période de tension, le yoga va agir comme un bouton pause dans un quotidien qui va être surchargé. Les exercices, par exemple, de respiration, comme cette fameuse respiration abdominale, elle va aider à calmer le système nerveux, apaiser le rythme cardiaque et donc l'esprit. Résultat, la personne va se sentir plus détendue et disponible pour affronter sa journée. Côté physique, le yoga va renforcer les muscles profonds, améliorer la posture, assouplir les articulations. Côté mental, il va entraîner une concentration et une pleine conscience. Et donc vous verrez avec la pratique, on est moins distrait, on est plus à l'écoute de son corps, des autres, on a un corps qui est plus fort et un esprit plus clair, quoi.
Est-ce que le yoga peut aussi aider des personnes qui souffriraient par exemple de troubles digestifs ?
Alors, ça a un vrai intérêt pour la digestion. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on le conseille parfois en complément d'une hygiène de vie, hein, d'une bonne hygiène de vie. Ce qu'on peut attendre, c'est que par exemple certaines postures vont venir, comme les torsions, elles vont exercer un massage doux sur les organes internes comme l'intestin, le foie. Et donc cet automassage va favoriser la circulation du sang dans ces zones et aider à activer le transit. En plus, on sait que le stress ralentit la digestion parce qu'il active le système nerveux sympathique, le mode alerte. Alors que le yoga, grâce à une respiration consciente et la relaxation, va activer le système de repos et donc favoriser une bonne digestion. On peut aussi parler des mouvements doux qui sont associés à cette respiration profonde, qui peuvent amener une expulsion des gaz, réduire des sensations de ventre gonflé. La pratique va aussi amener une meilleure posture debout ou assise. On ne va plus être complètement affalé. Et en fait, tout ça, ça va favoriser le travail normal de l'estomac et donc éviter les remontées acides. Ça peut aussi aider à être plus attentif à ses sensations. Donc à manger de façon plus lente, à écouter sa faim réelle, peut-être éviter les excès de table. Je fais quand même une petite précision, on ne fait jamais de yoga sur un estomac plein, on attend au moins 2 heures.
Et enfin, énormément de personnes souffrent de mal au dos. Est-ce que le yoga peut aider sur ces problèmes ?
Alors, moi en tout cas, de mon expérience personnelle, ça m'a sorti de la douleur. Donc, de cette expérience-là, je dirais que oui, c'est possible. Après, il y a plein de cas de figure. Hein. En tout cas, ça peut réduire ou éviter des douleurs de dos par plusieurs mécanismes complémentaires, à la fois physiques et nerveux. Par exemple, il y a beaucoup de postures qui vont solliciter des muscles stabilisateurs de la colonne, comme les abdominaux, les lombaires, etc. Et un dos qui est soutenu par une musculature équilibrée, est moins sujet aux tensions et aux faux mouvements. Tous les étirements progressifs vont détendre les muscles qui peuvent être raides, comme les muscles lombaires, les épaules, les ischio-jambiers. Et donc ça va aussi améliorer au niveau de la colonne vertébrale. Plus de souplesse, ça veut aussi dire moins de compression et de contrainte sur les disques et les articulations. Donc ça, c'est aussi un atout majeur. Les mouvements lents et la respiration profonde vont activer le système de récupération, le système de repos, ce qui peut diminuer toutes les contractures et agir sur les douleurs liées au stress ou à l'anxiété. Étirements, torsions vont augmenter le flux sanguin dans nos muscles, ce qui va amener des nutriments et de l'oxygène. Une bonne circulation favorise la récupération et la réparation des tissus. Voilà, donc moi j'attire votre attention sur le fait que le yoga ne remplace évidemment pas un avis médical. Si vous avez une douleur chronique ou aiguë, il faut d'abord aller consulter votre médecin plutôt qu'en toute autonomie aller pratiquer des postures, parce qu'il faut quand même se référer à une personne qui est formée, qui va pouvoir vous guider sur comment vous positionner, qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire à ce moment-là. Eh bien Antoine, je crois que notre petite parenthèse zen touche à sa fin, mais souvenez-vous, le yoga, c'est pas seulement plier le corps, c'est surtout déplier l'esprit. Alors ce soir, avant de plier vos draps et de plonger dans votre canapé, reprenez peut-être un peu le temps de respirer, de vous étirer et de sourire. Votre dos, votre souffle et peut-être même votre voisin de bureau vous diront merci demain. Sat Nam et à bientôt sur Radio Escapade pour une nouvelle émission de La Panacée. Yeah, 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 yeah. Hey, 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 hey. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.